à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Les fêtes approchent et quoi de mieux que de pénétrer dans la cuisine des écrivains? La revue Lire nous convie donc à ce singulier festin à la table des écrivains. Voici un festin lu, écrit par Estelle Lenartovics. Entrée. Asperges de Françoise. Divines asperges, cuisinées à merveille par Françoise, sublimées sous les pinceaux du peintre Elstir, servies en entrée chez la duchesse de Guermantes, les asperges, fusion du céleste et du terrestre, émeuvent et émerveillent. Avec leurs tiges trempées d'outre-mer et de rose, leurs épis finement pignochés de mauve et d'azur. Elles sont le légume fétiche du narrateur de la recherche. Du côté de chez Swann, par Marcel Proust. Pâté chaud d'anguilles de Colin. Préparé dans une cuisine ultra high-tech, équipé d'un four à palpeur sensitif et d'un tableau de bord dont les cadrans correspondent aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. Ce pâté chaud d'anguilles est concocté au tout début du roman par Nicolas Cuisinier et majordome attiré de Colin, selon la recette du chef Couffé, citée en intégrale dans le texte. Extrait « L'écume des jours » par Boris Vian. Moussaka de Mangeclou. Son cousin Saltiel lui reproche d'affamer ses bambins. Alors Mangeclou se met au fourneau et réalise une délicieuse moussaka, savant mélange de viande et de légumes qu'il jette, sifflotant de délicieuses attentes et très à son affaire, dans une poêle fumante libéralement arrosée d'huile. Généreux mangeur, Mangeclou cuisine avec amour, rendant hommage à la mère nourricière et au doux plaisir de l'enfance. Les Valeureux par Albert Cohen. Les plats. Beefsteak frites de Roland Barthès. Choisir le beefsteak frites, c'est choisir un plat patriotique qui participe à la même mythologie sanguine que le vin. Quiconque en prend s'assimile la force taurine, explique le penseur structuraliste pour qui, de toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Plat bordé de jaune dans les restaurants bon marché, épais, juteux dans les bistrots spécialisés, cubique dans la haute cuisine. Le beefsteak continue aujourd'hui de sévir sous une forme nouvelle, le burger. Mythologie par Roland Barthès. Bœuf en daube de Martin. C'est son chef-d'œuvre absolu, le plat dont elle est le plus fière, Martha, la cuisinière de l'héroïne Madame Ramsay, a consacré 3 jours entiers à la préparation de ce magistral bœuf en daube. Parfaitement cuit, riche et tendre, il laisse échapper une odeur exquise. Une odeur exquise d'huile d'olive et de sauce. C'est un triomphe, commentera M. Banck après y avoir goûté. Promenade au phare par Virginie Woolf. Fromage. Plateau du ventre de Paris. En provenance des Halles, une vertigineuse quantité de fromage à pâte molle ou sèche, sélectionnée par un Zola au sommet de sa plume, un Cantal géant comme fendu à coups de hache, un Chester couleur d'or, un Gruyère pareil à une roue tombée de quelque char barbare, des porcs salus semblables à des disques antiques. trois brie sur des planches rondes, des camemberts d'un fumet de gibier trop faisandé, sans oublier les fromages de chèvre, gros comme un poing d'enfant, durs et grisâtres, rappelant les cailloux que les boucs menant leur troupeau font rouler au coude des sentiers pierreux. Le ventre de Paris par Émile Zola. Dans les desserts, tartelette amandine de Raguenau. J'ai mis une recette en verre, se réjouit le très lettré pâtissier rôtisseur Raguenau, à l'acte 2 de la pièce de Rostand. Puis il en fait la lecture à ses compères poètes. Battez pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs incorporés à leur mousse, un jus de cédra choisi, versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan, de moule à tartelette, d'un doigt preste à bricoter les côtés, versez goutte à gouttelette votre mousse en s'épuis, puis que s'épuis passe au four et blondine, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Extrait de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Ou bien la mousseline aux fraises à la Pérec. Dans les premières pages de cet ovni littéraire qui raconte en 650 pages un siècle de vie d'un immeuble parisien, loulipien et bec sucré, Pérec a casé sa recette préférée. Prendre 300 grammes de fraises des bois ou des quatre saisons, les passer au tamis de Venise, mélanger et incorporer à l'appareil un demi-litre de crème fouettée très ferme. Remplir de cet appareil de petites caisses rondes en papier et mettre à rafraîchir 2 heures dans le congélateur. Au moment de servir, placer une grosse fraise sur chaque mousseline. La vie, mode d'emploi, par Georges Perec. Un extrait de Gatsby le Magnifique, de Scott Fitzgerald. Tous les vendredis, 5 grandes caisses d'oranges et de citrons arrivaient de chez un fruitier de New York. Tous les lundis, les mêmes oranges et les mêmes citrons sortaient par la porte de service en une pyramide d'écorce vidée de pulpe. Sur des tables garnies de hors-d'œuvre luisants s'entassaient des jambons épicés et cuits au four parmi des salades multicolores comme des manteaux d'arlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teintes de brun doré. Dans Moby Dick, Herman Melville. Lorsque la soupe fumante apparut, la clé du mystère nous fut délicieusement donnée. Ah, mes bons amis, écoutez bien, de petites clovis juteuses, à peine plus grosses qu'une noisette mélangée à des biscuits de mer émiettés et à du porc salé finement émincé, composaient cette soupe enrichie de beurre et généreusement assaisonnée de sel et de poivre. Dans L'attrape-cœur de Salinger. Je suis pas un gros mangeur, vraiment pas. C'est pourquoi je suis tellement maigre. On m'a mis à ce régime où on ingurgite plein de féculents et de cochonneries pour gagner du poids et tout. Mais je l'ai même pas suivi. Quand je sors, généralement je mange un sandwich au fromage et je bois un verre de lait malté. C'est pas beaucoup. Mais dans le lait maltais, il y a plein de vitamines. Et puis sur la route de Jack Kerouac. Mais il fallait que je me remette en route, au lieu de pleurer sur mon sort. Alors j'ai pris mon sac, j'ai dit au revoir au vieil aubergiste, assis à côté de son crachoir, et je suis allé casser la croûte. J'ai mangé de la tarte aux pommes et de la glace. La qualité s'améliorait à mesure que je m'enfonçais dans l'Iloa. La tarte était plus grosse, la glace plus crémeuse. et puis Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. La table était très grande, pourtant tous trois se serraient l'un contre l'autre à un même coin. « Pas de place, pas de place !» s'écrièrent-ils en voyant Alice. « Il y a de la place à revendre !» répondit-elle avec indignation, et elle s'assit dans un grand fauteuil à un bout de la table. « Prends donc un peu de vin !» proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. Il y a le « Je me souviens » de Georges Perec et maintenant vient de sortir le « Je regrette » de Frédéric Mitterrand dans son livre « Mes regrets sont des remords » paru chez Robert Laffont. En voici un extrait. Chapitre 2. Je regrette de ne pas être allé aux obsèques de Georges Duperat, le projectionniste de l'Olympique Cinéma. Il avait travaillé pour moi durant 15 ans. Je l'avais connu par sa mère, concierge boulevard de Courcelles, alors qu'il cherchait un emploi après un long épisode d'alcoolisme dont il s'était délivré. Il me parlait de sa femme, qui avait tenu bon, et de ses filles avec fierté, en disant « la grande » et « la petite », comme si je faisais partie de la famille. Il venait d'une lointaine banlieue pour prendre son service. Il évoquait pour moi les autres cinémas de Paris, le grand patron du Rex, un gentleman, la propriétaire d'un réseau de salles de quartier. Une vraie peau de vache, celle-là. Il aimait son métier, sa cabine, ses appareils. Il a dû attraper son cancer à force de respirer l'air chaud et vicié des charbons à lumière sous le plafond en amiante. Il est venu me voir une dernière fois, amaigri, aidé Cathy, par le duo infernal de la maladie et de la chimio, en m'affirmant dans un sourire « ça va aller ». Je me suis sentie responsable de sa mort prochaine. Mes affaires ne marchaient plus depuis longtemps. J'étais en pleine faillite. Je ne songeais qu'à m'enfuir. Je regrette d'avoir laissé croire à Christine que je pourrais répondre à sa demande d'amour. Elle m'avait suivie depuis l'école où j'étais son professeur, à peine plus âgée qu'elle, pour m'accompagner dans l'aventure des débuts de l'Olympique. Gentil enfant du 16e, aux belles manières, tenant la caisse, repeignant le hall, distribuant les programmes, trouvant naturellement sa place parmi les ouvreuses, les projectionnistes, les loulous et les spectateurs, dans un petit univers auquel rien ne l'avait préparé. Et amoureuse de moi en l'occurrence, et sans l'avouer. Je peinais moi-même à reconnaître mes penchants, même si je n'avais au fond plus de doute à ce sujet. Ainsi, nous ne parlions jamais de l'astre mort qui nous unissait et nous séparait en même temps. Cette situation m'arrangeait. Elle m'assurait son dévouement et flattait mon narcissisme. Elle la faisait aussi souffrir de plus en plus, tandis que j'avais la cruauté de feindre de ne rien remarquer. Mais mon amoureuse était tenace. Elle espérait forcer le destin et je me persuadais parfois que je parviendrais quand même à dominer ma nature et à la rendre heureuse, car c'était une fille vraiment très douce. Je ne sais plus comment cela s'est terminé. C'est certainement elle qui s'est réveillée la première. Nos chemins se sont séparés tout simplement. Je me suis alors juré à moi-même de me montrer plus franc et plus honnête à l'avenir. Un serment que je n'ai pas tenu. Je regrette de ne pas avoir appelé Miguel après cette journée douce amère que nous avons passée dans une triste petite station balnéaire de la côte normande. Trop de temps s'était écoulé depuis les années au cinéma où il compta tant pour moi. Leader sexy, vif et intelligent de la petite bande des loulous Il était devenu mon lieutenant et nous avions traversé ensemble, durant près de 15 ans, les moments heureux ou difficiles de l'Olympique, dans l'insouciance joyeuse de notre jeunesse. Je trouvais en lui une vitalité plébéienne qui me confortait dans le rôle de protecteur que je m'étais attribué. Il trouvait en moi les ressources d'une amitié amoureuse dont il n'avait jamais imaginé auparavant qu'elle pût exister entre deux hommes. Je ne lui ai jamais demandé de franchir le pas et ce n'était pas faute d'y avoir souvent songé. Il n'eut jamais besoin de répondre à une question qu'il s'était certainement posée et qui flotta longtemps au-dessus de lui comme un nuage. 30 ans plus tard, je l'avais enfin retrouvé, heureusement marié à une femme gentille et père de beaux enfants, mais alourdi et rompu par une vie de mirage et de déception, sans argent ni perspective, pris au piège d'un espoir de retour de la chance qu'il attendait de moi et que je ne pouvais lui assurer, malgré quelques tentatives plus ou moins fructueuses pour lui venir en aide. J'aimerais pouvoir évoquer tout cela avec le détachement que l'on applique aux illusions perdues, mais l'image du beau gosse exsudant de joie et d'optimisme qui conduisait notre voiture américaine sur une autoroute du Delaware et celle du bon type fatigué qui n'avait plus qu'à proposer d'une voix inchangée le récit de son chagrin se superpose sans cesse et continue à me hanter. Je regrette d'avoir participé au procès de Majid. Bon, ce n'était qu'un simulacre et le verdict fut qu'il était sans doute innocent. Il s'est d'ailleurs réconcilié avec ses accusateurs presque instantanément. Et ils sont repartis tous ensemble pour traîner leur ennui comme d'habitude entre le métro Pernetti et le hall de l'Olympique. À échanger des plaisanteries salaces, mater les filles, passer d'une dispute à l'autre. Le quartier était pauvre et traînait une réputation exagérée de violence endémique. Petit prolo abandonné sur le pavé par la fermeture de l'usine d'à côté, et cependant gai, loyaux et fidèles à mon égard, les loulous faisaient partie de la vie du cinéma sans occupation définie. Mais avec la mission autoproclamée et vaguement assumée d'en assurer la sécurité. Certains étaient d'origine espagnole. Majid était le seul arabe, beau, gentil, évitant les conflits et se souciant de plaire. Il y avait eu un vol dans la bande. Le réflexe collectif fut de le soupçonner et de le traduire en justice dans la salle vide, un matin, avant la première séance. Je présidais plus ou moins le tribunal. Seul contre tous, Majid se défendait comme une bête traquée, déjà persuadée d'être coupable d'à peu près tout, mais pas de ce qu'on lui reprochait en l'occurrence. Je garde un souvenir épouvanté de son humiliation et de sa détresse, le goût amer d'une injustice à laquelle j'ai participé. On repassait souvent les désarrois de l'élève Torles. C'était un signe qui aurait dû m'avertir. Je regrette d'avoir maltraité le petit Steve et sa mère. Elle, une Américaine entre deux âges, aux yeux très bleus et à la voix douce, et lui, son garçon, d'une douzaine d'années, s'étaient tous deux mystérieusement échoués dans ce recoin perdu du 14e arrondissement où brillait faiblement la devanture du cinéma. Insinuant, et discrets, ils avaient fini par s'incruster dans le hall. Steve y faisait ses devoirs et rendait de menus services. Sa mère y tenait une sorte de boutique où elle poursuivait l'illusion de vendre des lainages qu'elle avait tricotés. J'avais encouragé cette bizarrerie par faiblesse, tendance bohème, propension à l'insolite. Je trouvais aussi que Steve était mignon et sa mère émouvante. Je les ai pourtant chassés un jour brusquement en leur parlant durement sous prétexte que les mailles prenaient trop de place et sans oser avouer que Steve devenait trop mignon. Elle a un peu résisté en chuchotant, un beau regard noyé d'incompréhension. Il l'a prise par le bras et l'a emmenée avec un geste d'homme. Ils avaient cru trouver un refuge et m'avaient fait confiance. J'ai encore honte de les avoir trompés. Je regrette de ne pas m'être donné la peine de retrouver Madame Bernhardt, la dame plus toute jeune qui s'occupait des assurances de l'Olympique. Elle m'avait donné de sérieux coups de main quand mes contrats n'étaient pas en ordre, notamment après l'incendie de la petite salle qui m'avait laissé démunie ou lorsque je l'avais réglé avec des chèques en bois. Elle me traitait toujours avec patience et indulgence, comme sa copine, la propriétaire des murs, une certaine Madame Wagner, autre dame d'un certain âge, à turban et col de renard. Des femmes bien maquillées, sorties d'une condition modeste, de jolies filles de la fin des années 30, entre Colette d'Arfeuil et Gaby Morlaix. Parvenues à une certaine aisance à force de taper sur leur Remington, et parce qu'elles étaient entreprenantes et habiles. Appartement du côté de Picpousse, petite voiture, beau français et orthographe impeccable. Pas le genre à s'être laissé embobiner par les hommes, veuves ou divorcées. En tout cas, toute seule, quand elle venait me voir. On disait quand même que Madame Wagner, dans le quartier, qu'elle allait au thé dansant du Royal, lieu où des gandins à bonne fortune faisaient tournoyer des beautés mûrissantes. On ne le disait pas de Madame Bernhardt, totalement absorbée par son rude métier de courtière en assurance et qui ne disposait pas de la sécurité d'encaisser des loyers. Je me demandais parfois ce qu'elles avaient fait toutes les deux pendant la guerre. Je penchais pour des attitudes de survivantes circonspectes et courageuses, et je les imaginais plutôt parmi les belles gosses qu'on voit embrasser les libérateurs dans les films d'actualité. Après la mort de Madame Wagner dans un accident d'auto, une fin mystérieuse qui cadrait malheureusement avec sa personnalité plus ouvertement romanesque, Madame Bernhardt, affectée par la disparition de son ami, vendit son agence et prit sa retraite, tout en insistant pour me garder comme client. Mais c'était aussi la fin de l'Olympique, et nous nous perdîmes de vue. Quelques années plus tard, j'appris fortuitement qu'elle parlait souvent de moi avec beaucoup d'affection. Je lui fis savoir que je viendrais la voir un jour dans le pavillon de Nogent où elle s'était retirée. Mais Nogent, c'est au diable quand on a trop de choses à faire. Une parente éloignée m'a fait parvenir une photo lorsqu'elle s'est éteinte, une photo qu'elle gardait sur la table de nuit, où l'on nous voit tous les deux devant le cinéma. Je la tiens par le bras. Elle sourit. Elle a l'air jeune. Je regrette de ne pas avoir su trouver les mots ni les gestes qui auraient pu adoucir un peu le sort de Madame Potron. À la demande d'un maire optimiste, l'Olympique avait fait des petits avec l'ouverture d'un complexe de 3 salles dans un centre commercial de banlieue, entreprise dont je me doutais vaguement qu'elle s'avérerait plutôt désastreuse. Parmi plusieurs candidates pour la place d'ouvreuse, plutôt bien de leur personne, j'avais choisi Madame Potron, une de ces dames usées par l'âge, dont on saisit au premier regard qu'elles n'ont jamais eu de chance dans la vie. Humble, grise, la tête basse, attifée avec un soin pathétique, sentant la misère, Madame Potron se rongeait aussi les ongles, indice qu'elle ne pouvait dissimuler de sa longue habitude de la défaite. Je garde en mémoire l'éclair de gratitude dans un éphémère sourire de jeune fille qu'elle me décocha en apprenant que je l'avais élue. Divorcée d'un mari alcoolique, ses enfants dispersés au loin depuis longtemps, avec un vieux chat arthritique pour seul compagnon dans son F2, Madame Potron, après une succession d'emplois précaires et de recherches infructueuses où ses ongles rongés avaient dû lui être fatales, entrait, certes, par la petite porte, mais quand même, dans le monde enchanté du spectacle. Hélas, tout s'est mal passé une fois de plus pour Madame Potron. La caissière, une dame au casque brun, permanentée, qui ne quittait jamais son imperméable en nylon léopard, l'a immédiatement prise en grippe en l'accablant de vexations en tout genre. Les spectateurs mégotaient leur pourboire. Les gamins lui volaient ses esquimaux. Le gérant, un brave type au demeurant, ne la défendait que mollement en lorgnant sur sa place pour une petite blonde aux ongles impeccablement vernissés de carmin, rencontrée à Monoprix. Elisabeth Badinter. Cette femme admirablement engagée vient de sortir « Le pouvoir au féminin » Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, l'impératrice reine chez Flammarion. En voici le début. Le prologue, les deux corps de la reine. Jusqu'à la fin de l'époque moderne, le pouvoir absolu du monarque occidental s'énonce au masculin. Le titre de reine renvoie au statut d'épouse du roi et ne signifie en soi, contrairement à celui de régente, aucun pouvoir spécifique. C'est ainsi qu'au milieu du XVIIIe siècle, le royaume de Hongrie a élu Marie-Thérèse d'Autriche, roi et non reine de Hongrie. Les femmes qui ont accédé au pouvoir absolu sont rares, à l'exception notable d'Élisabeth Ière d'Angleterre et de Catherine II de Russie, celles qui eurent ce privilège l'ont détenu par accident à la mort de l'époux et momentanément jusqu'à l'âge adulte de l'héritier. Nombre de ces régentes l'ont d'ailleurs partagé ou abandonné à un conseil ou à un conseiller privilégié. Blanche de Castille ou Catherine de Médicis font elles aussi figure d'exception. En règle générale, les femmes ne règnent que faute de mieux, c'est-à-dire faute de mal, sauf peut-être dans la Russie du XVIIIe siècle. Marie-Thérèse d'Autriche n'échappe pas à la règle. C'est en l'absence d'héritier dans la lignée des Habsbourg que son père se résolut la mort dans l'âme à lui transmettre le sceptre et la couronne. Pour comprendre l'apparente incongruité de la souveraineté féminine, il n'est pas inutile d'interroger la théorie des deux corps du roi, telle que l'a exposée l'historien médiéviste Ernst Kantorowicz. Cette fiction mystique répandue par les juristes anglais de la période élisabéthaine avait pour objet d'expliquer pourquoi la souveraineté, c'est-à-dire l'incarnation de la société politique, ne s'éteignait jamais. Selon celle-ci, le roi est doté de deux corps. Un corps naturel sujet aux passions, aux maladies et à la mort, et un corps politique immortel qui incarne la communauté du royaume. Autrement dit, un corps de chair et de sang et un corps symbolique et abstrait. Quand le corps naturel meurt, le corps politique est aussitôt transféré dans le corps naturel de son successeur. Le roi est mort, vive le roi ! Force est de constater que durant des siècles, on a répugné à l'idée que la femme puisse incarner le corps politique. Il est vrai que jusqu'au XIXe siècle, on tenait pour essentiel que le monarque puisse mener ses troupes au combat, ce qui paraissait impensable pour une femme. Mais au-delà de cet empêchement, il semble que le corps féminin tout entier occupé de la reproduction était inapte à une fonction symbolique, telle que la souveraineté, trop engluée qu'il était dans le monde naturel et mortel. La reine n'a qu'un seul corps qui fait obstacle à la transmission du corps immortel du royaume. Elle perpétue la lignée et transmet la vie, mais non le pouvoir qu'elle-même ne peut recevoir. La maternité est donc l'entrave majeure à la souveraineté féminine. Alors que le corps naturel du roi appelle peu de commentaires, celui de la reine, son épouse, attire les regards. courtisans, ambassadeurs, voyageurs qui peuvent l'approcher, décrivent son apparence physique, commentent sa beauté, sa grâce ou ses disgrâces. Lorsqu'elle est jeune, tous les yeux sont fixés sur son ventre, dont la succession dépend. La seule question qui vaille, a-t-elle la capacité d'engendrer des fils ? Si par malheur elle n'accouche que de filles, ou si le couple royal est stérile, on lui en impute la responsabilité et le pire est à craindre. Relégation, répudiation, voire assassinat dans certains cas. En revanche, mettre au monde un fils donne à la mère un nouveau statut et peut lui valoir un pouvoir d'influence, lequel n'est qu'un piètre substitut de la véritable souveraineté, un pouvoir de seconde main, illégitime et toujours critiqué. Le siècle des Lumières apporta un éclatant démenti au credo de l'incapacité féminine. 5 femmes montèrent sur le trône des 2 plus vastes empires européens. En Russie, Catherine Ière, épouse de feu Pierre le Grand, régna 2 ans. Anna Ivanovna, 10 ans. Élisabeth Ière, 20 ans. Et Catherine II, 34 ans. La 5e est Marie-Thérèse d'Autriche qui dirigea et symbolisa son pays comme nul autre durant 4 décennies. Mieux que ses sœurs russes, cette dernière incarne à proprement parler le pouvoir au féminin et nous autorise à évoquer les 2 corps de la reine. Épouse et mère, elle a conjugué magistralement féminité, maternité et souveraineté. Non seulement le corps naturel ne fut pas un obstacle, mais il se révéla un atout majeur pour asseoir son pouvoir. De ce point de vue, elle est à la fois incomparable dans son siècle et un précieux repère dans l'histoire des femmes. Chapitre 1. L'enfance d'une chef. A priori, l'archiduchesse Marie-Thérèse n'était pas destinée à régner sur le plus grand empire européen, non parce qu'une loi fondamentale l'interdisait, telle la loi salique en France, ou que la maison des Habsbourg ne connaissait que l'épouse du souverain, mais parce que son père ne le désirait pas. Jusqu'à ses derniers jours, l'empereur Charles VI a gardé l'espoir d'engendrer un fils. On peut dire que de son vivant, Marie-Thérèse, son aînée, a fait figure de suppléante ou plutôt de moindre mal. Un second choix qu'il s'est refusé consciemment ou non à envisager sérieusement. D'ailleurs, outre l'empereur, ni la cour de Vienne, ni les États héréditaires, ni même les autres souverains d'Europe ne regardaient avec bienveillance et respect la montée d'une femme sur ce trône. Pourtant, le temps passant, chacun savait qu'il en allait de la pérennité de la maison des Habsbourg, qui régnait sur la monarchie autrichienne depuis 3 siècles. Si l'empereur et ses sujets en parlaient peu, tout le monde ne pensait qu'à cela. L'obsession de l'héritier. Elle commence un demi-siècle avant la naissance de Marie-Thérèse. Son grand-père, l'empereur Léopold Ier, 1640-1705, dut attendre l'âge de 38 ans et son 3e mariage pour avoir enfin un fils, le futur Joseph Ier, qui parvint à l'âge adulte. 7 ans plus tard, il eut un second fils, Charles, qui sera le père de Marie-Thérèse. La crainte de l'extinction de la lignée avait déjà dû s'emparer de Léopold avant son 3e mariage, car on murmure dans les chancelleries que sa seconde épouse, qui ne lui avait donné que 2 filles mortes au berceau, n'était peut-être pas décédée tout à fait naturellement à 23 ans. L'obsession dut le reprendre peu de temps avant sa mort, en constatant que son aîné, Joseph, n'avait encore que 2 petites filles, en dépit des multiples remèdes que prenait son épouse pour lui donner un héritier. En 1703, Léopold Ier modifia la loi de succession pour qu'en l'absence de descendants mâles chez ses 2 fils, l'aîné de Joseph puisse monter sur le trône. après quoi ses deux fils durent prêter serment de respecter sa volonté. Joseph succéda à son père en 1705 et mourut 6 ans plus tard, victime d'une épidémie de petite vérole. Tout naturellement, son cadet lui succéda sous le nom de Charles VI. Pour autant, l'obsession de l'héritier continuait de hanter les esprits. Karine Teul sort son premier roman pour Le Pire en 2000 et l'année suivante Interdit est sélectionné par le Goncourt. Je vais vous lire un extrait de son dernier livre apparu, L'insouciance, édité chez Gallimard. La sélection, cette épreuve. Ils étaient 3 000, 4 000 peut-être plus à briguer un poste de courtier au sein de l'entreprise Cantor Fitzgerald, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines. Seuls 2 d'entre eux avaient été retenus à l'issue d'une série d'entretiens qui avait duré 6 mois. L'un français, l'autre américain. Ils avaient reçu un appel dans la matinée. « Vous avez été choisi, nous sommes heureux de… » etc. Les plus compétents, les meilleurs, l'élite. Ils allaient travailler respectivement au 103e et 104e étage de la tour nord du World Trade Center. Ceux qui n'avaient pas été retenus avaient reçu une lettre brève et formelle par la poste « Cantor Fitzgerald vous remercie, nous sommes au regret de… malgré vos qualités, bonne chance chez l'un de nos confrères ». Ils étaient alors passés par différentes phases, déception, sentiment d'injustice, amertume, colère, le cycle expiatoire de l'échec. Les élus prirent leurs fonctions dans un état d'exaltation hallucinatoire. Un an après, le 11 septembre 2001, aux alentours de 9h du matin, 2 avions détournés et pilotés par des terroristes appartenant au groupe islamiste Al-Qaïda percutèrent les tours du World Trade Center dans un embrasement de métal. À 10h23, l'Américain se défenestra du 103e étage pour échapper au gaz toxique. À 10h28, le Français mourut dans l'effondrement des tours. Présenté 3 ans plus tard, le rapport final de la Commission nationale sur les attaques terroristes s'ouvrait sur ces mots. Mardi 11 septembre 2001, la température est clémente et le ciel sans nuages sur la côte est des États-Unis. Sur mon ordre, l'armée des États-Unis a commencé des frappes contre les camps terroristes d'Al-Qaïda et contre les installations militaires du régime taliban en Afghanistan. Ces actions soigneusement ciblées visent à arrêter l'utilisation de l'Afghanistan comme base d'opérations terroristes et à attaquer les capacités militaires du régime des talibans. Nous sommes rejoints dans cette opération par notre allié royal, la Grande-Bretagne. Des amis proches comme le Canada, l'Australie, l'Allemagne et la France ont aussi déployé des forces sur le terrain. Nous demandons beaucoup à ceux qui portent l'uniforme. Nous leur demandons de quitter ceux qu'ils aiment, de parcourir de grandes distances, de risquer d'être blessés et même d'être prêts à faire l'ultime sacrifice de leur vie. George W. Bush, extrait d'un discours prononcé à la Maison-Blanche le 7 octobre 2001. Retour d'Afghanistan. Ce n'est pas une décharge de chevrotine, ça ne vous tue pas, peut-être, mais ça déforme, ça détruit, lentement, froidement, comme une substance toxique et irradiante, mutant vers quoi ? Un être supérieur, cuirassé, statique, Rien ne l'ébranle, rien ne l'affecte. Un de ceux qui résistent, un dur. Blindage métallique, les yeux décavés à trop contenir l'effroi. Il ne montrera rien, ne dira rien, impassible. Non, ça va aller, pas de plainte, pas comme ceux qui tombent, ceux qui lâchent, ceux qui cèdent à la peur, dédorant leur propre portrait. On n'est pas à la hauteur, on n'est pas capable. C'est brutal, violent, ça déchire la surface, abrasion définitive. Certains disent un coup sur la tête, une accélération suivie d'une projection accidentelle, un choc frontal, une fragmentation. C'est ça l'épreuve, la vraie. Touchez, vous êtes à vif, c'est l'expérience de la douleur et personne n'y est préparé. Personne. Ça surgit à tout moment, ça surprend, ces traîtres. Vous avez des ambitions, des rêves, des projets, la trilogie de la construction personnelle. Vous aimez, êtes aimé, peut-être. Concomitamment, quelle chance, profitez-en, ça ne durera pas. Soudain, la roue tourne, c'est votre tour et vos protestations n'y changeront rien. Avancez en rang serré, entrez dans la zone de turbulence, entrez dans la cage. Il y a de l'animalité dans l'épreuve. Vous renoncez à votre urbanité, au caporalisme agressif. Vous renoncez à la tyrannie des apparences, à l'effervescence, l'adolescence. L'incandescence, c'était hier. Plus rien n'a d'importance, passé la reddition, la vie. C'est ça, un apprentissage de la perte. Mais Romain Roller avait l'habitude, la peur. Il avait fini par l'apprivoiser, il avait été formé pour ça, et à l'âge où ses amis vivaient de petits boulots, devenaient vigiles, chauffeurs, entraîneurs sportifs, à l'âge où, de l'autre côté de périphérique, des ambitieux préparaient leur avenir professionnel comme une capitalisation à long terme. Romain Roller avait rejoint l'armée, le groupement des commandos de montagne, affilié à un bataillon de chasseurs alpins pour finir par obtenir le grade de lieutenant. Et tout ça pour se retrouver où ? Au Kosovo, à Mitrovica, où il avait vu des victimes brûlées, s'échappant de leur maison incendiée par l'explosion de cocktails Molotov, se jetant par les fenêtres, tentant de survivre par tous les moyens, car personne ne veut mourir. C'est tout ce qu'il avait appris à la guerre, rien d'autre. En Côte d'Ivoire, à Bouaké, où un campement de soldats français en mission pacifique avait été bombardé par un avion de l'armée du président ivoirien, causant la mort de 9 soldats français et d'un Américain. En Centrafrique, où des cadavres gisaient putréfiés, dépecés à coups de machette, des mouches grosses comme des olives voltigeant autour dans un bourdonnement de scies électriques, des familles entières, hommes, femmes, enfants, victimes de guerres ethniques, et après ça, vous pensez être blindé, vous êtes encore capable de vous endormir sans somnifère, sans alcool, sans être réveillé en pleine nuit par des images charniers. Vous avez des envies, du désir, vous sortez, vous parlez. Oui, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Car vous aurez beau tâter toute la misère du monde, tant que vous n'avez pas connu l'Afghanistan, vous n'avez rien vu. L'enfer afghan, écrasé par la nature, sa complexité, ses cavités secrètes, sa rusticité, tout ce que votre ennemi maîtrise et qu'il vous faudra apprivoiser, car il connaît la région mieux que vous ne la cernerez jamais. Les vastes pentes vallonnées percées de ravins, avec en toile de fond les sommets crayeux de l'Hindou Kush. Les nuits piquées d'étoiles, un paysage de cartes postales, la zone verte hérissée de vergers touffus, rameux, sa verdure exubérante dans laquelle vous vous enfoncez en priant pour qu'un tir ne vienne pas vous trouer la tête. Et ça ne manque pas, les tirs tombent, les roquettes fusent, vous ne voyez rien, votre adversaire se carapate, tapis quelque part tranquille, tout ce qu'il veut. C'est bouffer de la viande. Ce pays, c'est une bombe, vous comprenez ? Et tout le monde a le doigt posé sur le détonateur. le taliban embusqué qui attend que vous vous pointiez, le guetteur posté devant votre base et qui demande à vous parler dans un sabir qui ajoute à la panique, l'enfant qui s'avance vers vous avec un regard à vous fendre l'armure sans que vous soyez capable de savoir s'il a un flingue chargé dans son short ou s'il veut juste un bonbon. L'agriculteur qui ramasse ses prunes sucrées et juteuses et vous en propose une. Ça vous tente, et là vous ne savez pas quoi faire. La refuser, c'est l'humilier. Dans un pays régi par le code d'honneur, c'est en faire un futur insurgé. L'accepter, c'est peut-être prendre le risque de recevoir une autre prune en plomb, celle-là, mais la perspective de passer 35 fois sur le billard vous fait trembler, vous refusez. L'Afghan qui est au téléphone en pleine rue au passage d'un convoi allié, qui appelle-t-il ? Son portable est peut-être un activateur de bombes à distance. Et comment faire la différence ? De là où vous êtes, vous ne discernez rien. Et quelle décision prendre ? Le regarder sans réagir, le descendre en pleine rue ? Votre combat est légitime, moral, légal. Le soldat de l'armée afghane que vous êtes censé former, ce type doux et affable auquel vos hommes apprennent sans relâche à manier une calache, êtes-vous sûr qu'il n'est pas un insurgé infiltré ? Qui ne va pas retourner son arme contre vous au cours d'une mission ou vous tuer pendant votre sommeil ? Êtes-vous certain qu'il ne va pas vous planter une hache dans la tête comme Roller avait vu un homme le faire au cours d'une réunion de chefs afghans ? Bang ! Un coup dans le crâne d'un Canadien de 25 ans, sa cervelle a éclaté sur eux. Durant le trajet de retour à la base, personne ne parle. Chacun fait le mort. Non, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir, que des lambeaux de chair maculent leurs vestes et leurs cheveux. Non, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir, que le plus solide d'entre eux tremble comme s'il était placé sur une plaque vibratile. Et Roller rappelle les ordres de mission. C'est ça le sang-froid, c'est ça la maîtrise. Il leur rappelle qu'ils ne doivent pas parler de ce qui s'est passé à leurs épouses, leurs amis, leurs parents. Et le soir, au téléphone ou devant l'écran de l'ordinateur, à la question « Comment te sens-tu ? » Vous répondez « Bien, très bien, super bien. » Mentez-leur. Mentez-leur quand ils vous demandent si vous avez le moral, si vous supportez la chaleur, la pression, votre gilet pare-balles, le poids de votre matériel. Mentez-leur quand ils exigent savoir pourquoi vous portez un pansement à la main. Mentez-leur quand ils vous assaillent de questions. Tu as bien reçu les barres de céréales que je t'ai envoyées ? Et vous répondrez « Oui, oui, je les ai adorées », alors que ça fait 3 jours que vous n'avez rien pu avaler. Après, vous craquez, vous crachez, oui, mais sous la douche seule, quand les fragments de chair du Canadien bouchent le siphon, quand une part de vous-même est en train de se diluer comme un corps plongé dans un solvant puissant. Le traducteur qui vous propose ses services ne serait-il pas un espion téléguidé par les talibans, un otage qui agirait sous leurs contraintes ? Le piège facile à tendre, il menace de tuer sa famille s'il ne coopère pas. Ils savent où elle habite, ils ont le nom de son père et de sa sœur. Tu sais ce qu'on pourrait faire à ta sœur ? Oui, il le sait. Ils lui tireront une balle dans le dos ou ils la brûleront à la scie d'un jet dans la gueule, défigurée pour l'exemple. Alors oui, sans aucun doute, le traducteur qui est dans votre camp au début de la mission peut tout à fait passer dans le camp ennemi 2 mois plus tard parce qu'il a peur. Oui, dites-vous bien que la peur gouverne tout là-bas. Et il y a ce cadavre placé au milieu de la route, peut-être bourré d'explosifs. Il y a cette petite chèvre qui progresse à votre suite avec sa clochette autour du cou. Il y a ce kamikaze qui surgit au milieu d'une zone que vous êtes en train de sécuriser. Il se précipite vers vous comme si vous étiez la plus belle fille du monde. Avant de sonner au portail, Ludovic prend toujours une grande inspiration, histoire d'accélérer son rythme cardiaque, se préparer au coup de sang ou à l'accueil glacial. Ensuite, il se tient droit, torse bombé, il campe son gabarit et attend que la porte s'ouvre. Mais là, quand il voit apparaître la vieille femme sur le perron de ce pavillon défraîchi, il comprend que cette fois, l'épreuve sera tout autre. Ne pas s'apitoyer. Dans le salon, Ludovic choisit le grand fauteuil de l'autre côté de la table basse. La vieille dame met un temps fou à se poser. Il se dit qu'elle doit sûrement en rajouter, à moins qu'elle n'ait vraiment mal au dos, aux jambes, un peu partout visiblement. Il en profite pour sortir les documents de la chemise qu'il a apportée. Mais déjà la vieille femme se relève. Elle marche péniblement vers le couloir et dit qu'elle va chercher ses lunettes. Seulement, elle ne sait plus où elles sont. 3 minutes après, elle n'est toujours pas revenue. Cruel temps mort. Comme souvent pendant ce genre de pause, Ludovic se sent mal à l'aise, salement embêté. Il a horreur de ces silences. Il préfère que tout s'enchaîne, que tout aille vite, quitte à ce que le ton monte et que ça s'enflamme. Lors d'une visite, il arrive que ça s'envenime, que les cris fusent et même que le gars sorte carrément une lame comme la semaine dernière, alors qu'aujourd'hui c'est tout le contraire. Sans rien en laisser paraître, il n'est pas fier, surtout que cette vieille femme lui fait penser à sa mère. Elle a plus ou moins le même âge, la même difficulté à marcher. En la découvrant tout à l'heure sur le perron, au moment où elle est venue lui ouvrir, il en a été troublé. Dans ces cas-là, il s'en tient à sa carrure qui en impose, 1,95 m pour 102 kilos. Pour peu de fermer le visage, il sait produire de l'effet. Pourtant, ce qu'il veut, c'est ne pas faire peur, juste qu'on se dise qu'il ne sera pas le type à s'émouvoir, à se laisser attendrir. En général, il y parvient très bien. Pourtant, c'est rude parfois, c'est rude de tout comprendre des autres, de tout en ressentir immédiatement, parce que là, rien qu'en entrant, en se laissant guider le long de la petite sente cimentée, en la suivant dans le corridor de son pavillon de Sevran, il a tout deviné de cette vieille femme qui avance mal, se doutant qu'elle a dû vivre la plus grande partie de sa vie ici. Il a retrouvé tous les symptômes des trop anciennes habitudes, la niche abandonnée depuis des lustres, le jardin qu'on ne fait plus, les chaussures du mari au pied du buffet, le mari qui apparemment n'est pas là, qui dort ou qui est à l'hôpital. Il ne sait pas encore où elle en est de sa vie, cette petite dame. Cette brave endettée, et même si le pavillon n'est pas moche, tout y sent la déveine et le destin fané. À l'odeur de cuisine qui flotte dans toutes les pièces, il a tout de suite reconnu les cuissons au beurre répétitives, les steaks décongelés dans la poêle trop grasse, les choux de Bruxelles qui ont traîné hors du frigo, un parfum de vieille école et la radio à pile sur le meuble, et la rangée de chaussons. Mais le plus marquant, c'est l'odeur un peu rance des cuissons de la veille. Il la retrouve souvent quand il entre comme ça à l'improviste chez les gens. C'est le fumet de ceux qui se nourrissent mal, en mangeant gras, en buvant peut-être. Comme à chaque fois, il est frappé par une impression d'ensemble. C'est dû à cette indélicatesse ultime qu'il y a à débarquer chez des inconnus sans avoir prévenu de sa visite. Quand elle a vu le papier en tête qui lui tendait au-dessus du portail avec le logo bleu, blanc, rouge qui claque bien, elle lui a aussitôt dit d'entrer, sans faire la moindre difficulté, poliment. De toute évidence, cette femme ne cherchera pas à se défiler, ce qui serait pitoyable, pour lui surtout. C'est toujours désolant de devoir gérer une situation où les autres jouent d'emblée la mauvaise foi, où la déloyauté et le manque de scrupules empoisonnent tout. Mais ces situations-là, il est pressant. Les rares fois où les gestes ont dépassé les paroles, qu'ils en sont venus aux mains, c'est avec des jeunes pas trop équilibrés, des couples le plus souvent, avec les mômes qui se mettent à chialer au milieu, qui électrisent tout. La vieille femme revient avec ses lunettes. Elle lui demande s'il veut boire quelque chose, s'il préfère une bière ou un porto. Mais là, il refuse tout net. Le danger, ce serait que ça vire à la visite de courtoisie, que la tonalité bascule dans le compassionnel. Le vrai risque, quand on fait comme ça du recouvrement de dettes, c'est bien de se laisser troubler, de fléchir. À partir de là, on n'en finirait pas d'absoudre. En jetant un coup d'œil aux éléments qu'il a dans le dossier, il réalise que la vieille dame n'est pas si âgée que ça. 76 ans, comme il le voit à sa date de naissance sur les bordereaux. Mais elle n'a peut-être plus toute sa tête, ou elle fait bien semblant, parce qu'elle est déjà en train de lui servir un verre de Porto, en s'en servant aussi un pour elle, à ras-bord. Deux petits verres qu'elle glisse délicatement sur la table basse. Ludovic repousse ostensiblement le sien et, dans un geste large, il en profite pour prendre le plus de place possible en déployant tous les documents qu'il a apportés. Face à tous ces papiers en tête, la femme se relève. Ludovic sent bien que quelque chose s'affole en elle. En revoyant les copies de toutes ces relances qu'elle a déjà reçues, elle a du mal à encaisser le coup. Mais la réalité est là. Cette foutue dette est bien là devant elle, en train de la rattraper. Vous savez, Madame Salama, plus ça traîne ces histoires et moins c'est bon. Je dis ça pour vous, Madame Salama. Je vous le rappelle, si je suis venue, c'est pour arranger les choses. Je suis là pour que tout rentre dans l'ordre. Vous comprenez, moi, mon boulot, c'est justement d'éviter que les choses se gâtent. Vous comprenez ? Pour chaque rendez-vous, il se munit d'une chemise en carton avec le nom de la personne écrit dessus en évidence. Une simple chemise, mais pas de cartable, pour bien marquer l'exclusivité de sa démarche, pour signifier qu'il se déplace spécialement pour elle. Uniquement pour la voir elle, elle dont le nom de famille est inscrit au marqueur noir sur le dossier rouge, un peu comme un dossier médical, un dossier bien épais, qu'il gonfle à 90% de papiers qui n'ont rien à voir, ce qui en impose. Depuis 2 ans qu'il fait ce boulot, Ludovic est au moins sûr d'une chose, c'est que le gros dossier impressionne bien plus méchamment que ses 102 kilos. Oh, moi, vous savez, j'ai jamais rien compris à tous ces papiers, les recommandés, tout ça. Justement, Madame Salama, vous devriez vous asseoir, que je vous explique bien tout. Il sent la dame plutôt inquiète, alors il module en humanisant l'affaire. « Ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits impayés. Je vais vous dire, de nos jours, c'est même la règle. On s'endette pour acheter quelque chose, un beau jour, on a la chose, mais là, on oublie qu'il faut finir de la payer. C'est le système qui veut ça. » « C'était pour ma petite fille, vous comprenez ? C'était pas pour nous. » « La bague ? C'était pour votre petite fille ? Oui, pour son mariage. » « D'accord. Mais si je lis bien, elle s'est mariée il y a 2 ans, et la bague, elle n'est toujours pas payée. 2 ans, ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas ? En plus, il n'y a eu qu'un seul versement après l'acompte, et encore, pas complet. C'est bien ça. » « Elle a divorcé depuis, pauvre petite. C'est un amour. Elle n'est pas aidée dans la vie. Mais je vous prie de croire que c'est un amour de gamine. » « J'en suis sûre, Madame Salama, mais comprenez-moi bien, je ne suis pas venue vous parler de votre petite fille. Là, c'est la bague qui nous occupe. Il l'a laissée seule avec 2 enfants du jour au lendemain. » « D'accord, mais à ce que je vois dans le dossier, le mari de votre petite fille, lui, il n'y est pour rien. » Son nom n'y figure même pas, Madame Salama. C'est bien vous qui l'avez acheté, cette bague, n'est-ce pas ? Vous voulez lui avancer, c'est ça ? Oh, je ne sais plus, c'est mon mari qui avait rempli tous les papiers. C'est toujours lui qui remplit ces papiers-là. D'accord. Il est où, Monsieur Salama ? À l'hôpital. La petite appréhension douloureuse qu'il sentait poindre avant de poser cette toute simple question, voilà qu'elle se confirme, voilà qu'il faut tout de suite qu'il tienne sa ligne, ne pas se laisser gagner par l'apitoiement. D'accord. Mais sur le premier chèque, c'était bien votre signature à vous, non ? C'est un chéquier commun, et puis je ne sais plus, moi. Vous me parlez de ça il y a 3 ans, et je vous dis, ils ont divorcé depuis. Non, 2 ans. Et sinon, elle est où cette bague maintenant ? En faisant mine de fouiller dans ses dossiers, Ludovic imagine d'avance le topo, récupérer la bague chez la petite fille qu'il a sans doute déjà revendue, et les deux mômes qui hurlent et la jeune femme qui perd ses moyens ou qui panique ou qui s'affole, et si elle a un nouveau mec dans sa vie et qu'il est là au milieu, de voir gérer le mec aussi, tenter de rester impassible, marcher au-dessus du volcan. Alors il tente le petit coup de bluff. « Madame Salama, votre petite fille, vous l'avez aidée. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez l'aider jusqu'au bout. Sinon, c'est sur elle que ça va retomber, toute cette histoire, si vous ne faites rien. C'est elle qui va devoir régler les 700 euros. »« Oh, mais je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Oh mon Dieu, fallait que ça m'arrive à moi. » « J'ai pas de chance, vous savez, j'ai pas de chance. Ne me dites pas que vous allez lui faire des problèmes. Mais moi, si je suis là, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de problème. Écoutez-moi bien. Dans cette histoire, je suis un conciliateur. C'est tout. Je représente le bijoutier de Livry-Gargan, chez qui vous avez acheté la bague. C'est un brave artisan. Seulement, ces derniers temps, il a beaucoup de soucis avec des gens qui ne le payent pas. Si bien que lui... Il avance de la marchandise pour que les gens aient leur bague à temps. Et après, c'est lui qui est embêté parce qu'on ne le paye pas. Vous comprenez? Il faut bien qu'il récupère son argent, sans quoi il va fermer boutique, vous comprenez? Les bijoutiers, c'est tous des voleurs. Pas celui-là, Madame Salama, pas celui-là, croyez-moi. Alors, pour avancer, on va faire une petite chose toute simple. On va faire un échéancier sur 20 mois, si vous voulez. Et pour que vous soyez tranquille, vous allez me faire 20 chèques de 35 euros que le bijoutier déposera mois par mois. Comme ça, on évite les procédures, l'huissier et tout le pataquès. Je vous promets qu'il n'y aura pas de mesure de justice, pas de tribunal, pas de problème, rien. Manquerait plus qu'il me traîne en justice à mon âge, qu'il essaye un peu, tiens, il va pas être déçu. Ne vous en faites pas. « Je suis justement là pour qu'on ne vous embête pas, pour qu'on discute gentiment, vous voyez ?»« Voilà, on va y aller doucement, mois par mois. Vous me suivez, Madame Salama ?»« Tout doucement. Vous savez quoi ? Faites-moi confiance, Madame Salama. Vous allez voir, on va tout arranger. » Et comme ça, grâce à vous, tout le monde sera content et votre petite fille ne sera pas embêtée. D'accord ? Allez, on trinque ? Ah non ! « Ça, je ne veux pas. »« Quoi donc ?»« Que la petite soit embêtée. » Quand elle sort un vieux chéquier tout démantibulé du tiroir de la commode, soudain, il est saisi d'un doute. Il prie pour qu'elle ne lui fasse pas le coup des chèques en bois, parce que déjà, il s'imagine revenir dans une semaine, revenir, mais dans une tout autre disposition, et là, devoir hausser le ton, passer dans un tout autre registre. Face à cette femme de 76 ans, sincèrement, il croise les doigts pour qu'elle ne l'embrouille pas et qu'elle la joue honnête. C'est alors qu'elle avale son verre de Porto d'un trait et s'en resserre un second, qu'elle avale aussi sec, et il a de nouveau un doute. Dès le premier chèque, elle se plaint qu'elle n'y arrive pas, que le stylo marche mal et qu'il n'y a pas assez de lumière. Sur ce, elle se relève et lui dit qu'il les fasse lui-même, qu'il les remplisse. Elle prend le parti de lui faire confiance, lui aussi en un sens. Ils sont deux à se faire confiance. Seulement, à force, il a le flair, les emmerde, il les renifle. Et quand il remarque sur le talon du carnet que le dernier chèque date de 3 ans et qu'il s'aperçoit qu'elle porte 2 paires de chaussettes par-dessus ses bas, parce que c'est vrai, qu'ici n'est pas chauffé, il sent bien que cette histoire n'en restera pas là.